Ouais. OK, ça va mieux, merci. Je vais mentionner deux souvenirs, parmi les plusieurs souvenirs qu'on garde de notre temps ici. Un souvenir que je garde, c'est l'accueil de l'Assemblée envers des inconnus, envers des étrangers. C'est une force ici à Beauport. Ça a fait toute la différence lors de notre arrivée au Québec, voilà 7 ans. Et quand on parle de cette assemblée, on en est toujours reconnaissant. Un deuxième souvenir que je garde parmi les gens que j'ai pu côtoyer, c'est votre désir vif pour la parole de Dieu. Votre sensibilité à tout ce que Dieu nous a dit, qui est en réalité une sensibilité à l'Esprit de Dieu. Fait que même aujourd'hui, je suis encouragé parce que je sais que je peux prêcher librement la parole. Nous étions 4 en déménageant, avec Mélodie qui a 5 ans maintenant et Noël qui a 7 ans. On est rendu 6 avec Mathéo qui a 2 ans et Abraham qui a 8 mois. J'aimerais en glisser un mot concernant notre ministère. Le gros de notre ministère à l'heure actuelle, c'est la formation des responsables, la formation biblique, théologique des responsables pour les églises évangéliques au Québec. Fait que c'est une joie que j'ai de faire partie de ce domaine-là, de ministère au Québec. Je donne des cours avec Sembec, qui est basé à Montréal. Je donne des cours en langue biblique, en interprétation biblique également. Puis, votre offrande de l'action de grâce, bien, ça nous encourage beaucoup de continuer dans le même sens. Et votre participation contribue directement à l'expansion de l'Évangile à travers le Québec. Fait qu'un gros merci. Tournez avec moi, j'ai hâte d'aborder le début de l'histoire de Ruth avec vous autres. Ruth, chapitre 1. Ruth se trouve juste après le livre des juges. Ouais. Josué, juge, Ruth. Avant même de lire le premier chapitre, on va juste voir le premier chapitre aujourd'hui. Avant de le lire, j'aimerais ça tirer votre attention à une phrase, la phrase qui débute le livre. Au tout début, ça dit « au temps du gouvernement des juges ». Au temps du gouvernement des juges. C'est la façon dont l'auteur signale que, écoutez, les événements qui vont suivre se sont pas produits dans des circonstances idéales. Au contraire, la période des juges, comme vous savez, était un moment très bas dans l'histoire d'Israël. C'est comment qu'on peut dire ça? Mais si on regarde la phrase qui termine le livre précédent, juge, on lirait que chacun faisait, OK, ce qui lui semblait bon. Au début du livre des juges, les juges qui viennent au secours du peuple sont pas pires. Mais même les juges, au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, même les juges vont de pire en pire, puis ce n'est que la puissance de l'Éternel qui, à travers chaque juge, qui préserve le peuple. Et à la toute fin des livres des juges, on est témoin, le lecteur est témoin des crimes horribles, du jamais vu dans l'histoire d'Israël. On est même gêné de lire ces chapitres-là parce que ça se peut pas, ça choque. Et l'auteur de Ruth, maintenant, en disant au temps du gouvernement des juges, il ne situe pas son récit pour nous juste pour nous donner un fait historique intéressant, mais plutôt pour nous dire qu'une des plus belles histoires de l'Ancien Testament s'est produite pendant l'époque la plus méchante. Fait qu'on peut pas lire le livre de Ruth puis dire, regarde, ben, ces événements se sont produits dans des conditions idéales, au contraire. Fait qu'avec cette époque dans nos esprits, je vous propose que ce chapitre 1 est divisé en 3 épisodes. On va les regarder tour à tour, les 3 épisodes. D'abord, on va dans les versets 1 à 5, on va rencontrer le beau-père de Ruth, Élimélec. Mais avant de les lire, j'aimerais ça prier avec vous autres. Seigneur, si on vient à ta parole ce matin, c'est parce qu'on a la confiance que tu vas nous guider à comprendre ce que ça dit. Et plus précisément, Seigneur, dans les conditions difficiles, à travers des blessures, qu'est-ce que tu veux qu'on croie à propos de toi? Que tu nous montres le chemin à travers ta parole. Dans le nom de Jésus, amen. Lisez avec moi 1 à 5. Au temps du gouvernement des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour séjourner dans la campagne de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, le nom de sa femme Noémie et le nom de ses deux fils Mahlon et Kilion. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Ils arrivèrent dans la campagne de Moab et ils y vécurent. Puis Élimélec, mari de Noémie, mourut. Et elle resta avec ses deux fils. Eux, ils épousèrent des femmes moabites. Le nom de la première était Orpa et le nom de la seconde, Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Mahlon et Kilion moururent aussi, tous les deux, et la femme resta privé de ses deux enfants et également de son mari. Le premier élément du texte que j'aimerais mettre en relief, ce sont les actions de cet homme, le beau-père de Ruth, Élimélec. Le nom Élimélec, ça veut dire « mon Dieu est roi ».« Mon Dieu est roi ». C'est un bon nom, sauf, vous propose qu'Élimélec n'agit pas selon son nom. Comment ça? Pour les gens d'Israël à l'époque qui écoutaient cette histoire, ça aurait sauté aux yeux que tu ne vas pas à Moab. Tu ne mêles pas avec les Moabites. Tu ne laisses pas tes fils, exemple, prendre des filles Moabites. Pourquoi? Bien, quand le peuple a quitté l'Égypte, puis le peuple voulait passer à travers Moab, vous rappelez, pour rentrer dans la terre promise. Puis Moïse a demandé au roi Balak de Moab, est-ce qu'on peut passer en paix? Il a dit non. En fait, ce roi Balak, se voyant vaincu, il a engagé un prophète païen, Balaam, pour maudire le peuple dans un événement bien comique. Depuis cet événement-là, Dieu a toujours dit au peuple, « Mêlez-vous pas avec les Moabites. Ne les inclure pas dans vos affaires. » Juste pour être méchant? Non. Parmi tous les peuples aux alentours d'Israël, les Moabites en étaient les plus méprisés. Ils étaient le produit, vous vous rappelez, de la relation entre Lot et sa fille. Tout au long de l'histoire des deux pays, c'était plutôt Israël qui avait tendance de se laisser entraîner par les autres, de se laisser entraîner dans l'idolâtrie de ce peuple-là qui adorait, entre autres, un dieu qui s'appelait Kemosh. Fait que lorsqu'on lit qu'Élimélec va à Moab, c'est l'alarme qui sonne. Est-ce qu'on est supposé de comprendre que par égard pour sa famille, Élimélec a pris les choses en main, mais fort probablement pas de la bonne façon. En tenant pas compte de la parole de Dieu. Mais vous dites, mais voyons donc, Benjamin, j'ai pas vu ça dans le texte. Où est-ce que tu vois ça, tu sais? Ben, deux choses. Il faut lire plus loin dans l'histoire. On verra qu'au fur et à mesure que l'histoire se déroule, ben, certains personnages suivent de près la parole écrite de Dieu, Boaz, entre autres, tandis que certains personnages ne le font pas. Élimélec en est un exemple. Deuxième chose, quand vous lisez ces histoires narratives de la Bible, ne prenez pas pour acquis que tout ce que font les personnages est digne d'être imité. Le génie du narratif biblique, c'est que tout n'est pas dit. L'auteur présume certaines informations. Il dit pas toujours si une action est bonne ou non. Il s'attend à ce que vous ayez lu le Pentateuque, c'est-à-dire les cinq premiers livres de l'Ancien Testament, qui est la base de tout le reste de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Fait que c'est un effort qui vaut la peine pour nous et qui est tout à fait réalisable. Mais pour rendre l'action d'Élimélec un peu plus actuelle, là, ça serait que mon père, qui reste à Philadelphie, qui vient me voir et dit, « Hey, Benjamin, tu sais comment les temps sont difficiles financièrement, puis j'ai une très bonne occasion d'affaires, oui. Je crois bien que le Seigneur m'appelle à aller à Cuba, partir une entreprise. » Ah ouais? Ben, ça serait impensable. Pourquoi? Ben, les gens des États ne vont pas à Cuba. Pourquoi? Ben, c'est interdit. Fait que je dirais à mon père, ben, penses-tu que Dieu t'appelle à aller partir une entreprise à l'encontre de la loi? Oui, ben, les temps sont... Peu importe. T'sais. Puis la situation au début du livre a l'air impossible, non seulement à cause de la famine qui menace le bien-être de cette famille, puis le peuple de Juda en général, mais également parce qu'Élimélec fait preuve d'un manque de respect pour ce que Dieu a dit. Il met sa famille en danger spirituel parmi les Moabites sans l'influence des gens qui aiment le Seigneur. Et maintenant, le danger s'avère aussi physique parce qu'Élimélec meurt. Une autre preuve qu'il n'a pas bien agi dans le texte. Il meurt et ses deux fils aussi, et les deux veuves sont Naomi, et les deux belles-filles sont laissées, se retrouvent seules, une situation grave pour une veuve, des veuves à l'époque, beaucoup plus grave qu'aujourd'hui. Mais nous aussi, on a une tendance de prendre des petits raccourcis pécheurs, si on veut. Hein? Pour notre bien-être ou pour le bien-être de notre famille. Suivez-vous, vous, la parole de Dieu dans tous les détails, même quand les conditions ne semblent pas être favorables pour votre succès. Rappelez-vous qu'Élimélec et Naomi sont du monde qui vivait à une époque où chacun faisait ce qui lui semblait bon, puis c'est le contraire que d'agir en suivant la parole écrite de Dieu. La question que l'auteur veut nous poser à travers ce chapitre et la question que je veux vous poser ce matin, c'est que croyez-vous que Dieu est capable de changer une situation impossiblement négative en bien pour réaliser son plan? Tout comme il va ramener la joie de Noémie par la connaissance d'un bébé bien spécial dans le plan de Dieu, mais de la même manière, il veut ramener ta joie dans ta relation avec le Seigneur Jésus. Et plus grand que ça, il veut amener la joie à toutes les nations de la terre. Et il va le faire pour vous si seulement vous vous permettez de croire que sa bonne main est à l'œuvre même dans des circonstances décevantes, des circonstances difficiles, pour réaliser son plan et en même temps ramener ta joie. La même question sera posée par l'auteur à travers l'épisode 2. On va le lire ensemble. Regardez avec moi à partir du verset 6. On va lire 6 à 18. La seule espérance pour Noémie, parfois on dit Naomi, Noémie, dans la situation, c'est de retourner à Bethléem. Alors, elle se leva, elle et ses belles-filles, et s'en revint de la campagne, verset 6, chapitre 1, de la campagne de Moab. Car elle avait appris que dans la campagne de Moab, que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple en lui donnant du pain. Elle sortit du lieu où elle vivait, ses deux belles-filles avec elle, et elles se mirent en route pour retourner au pays de Juda. Noémie dit alors à ses deux belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bienveillance avec vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous donne à chacune de trouver du repos dans la maison d'un mari. » Elle les embrassa, elles se mirent à sangloter et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi et vers ton peuple. » Noémie dit, « Retournez, mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris à vous? Retournez, mes filles, verset 12, « Allez, car je suis trop vieille pour appartenir à un homme, et quand je dirai, il y a de l'espoir pour moi, quand cette nuit j'appartiendrai à un homme et que je mette des fils au monde. Attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous? Pour cela, d'appartenir à un homme? Non, mes filles, car mon sort est plus amer que le vôtre. La main de l'Éternel s'est abattue sur moi. » Mais les filles sanglotèrent encore. Orpah embrassa sa belle-mère, mais Ruth, par contre, s'attacha à elle. Noémie dit alors, « Voici que ta belle-sœur est retournée à son peuple et à ses dieux. Retourne à la suite de ta belle-sœur. » Ruth dit, « Ne me pousse pas à te quitter, à me détourner de tes pas. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple et ton Dieu est mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, j'y serai, enseveli. Que l'Éternel me fasse ceci, qu'il ajoute cela, si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. » Puis Noémie, pour sa part, la voyant résolue à aller avec elle, cessa de lui parler. Alors, étant privée des hommes de sa vie, Noémie décide de retourner à Bethléem. Je ne veux pas que vous manquiez son attitude ici. Elle dit une petite prière. Regardez le verset 8. Elle dit que l'Éternel use de bienveillance, ou que, dans le fond, que l'Éternel soit bon pour vous. Mais ce qui est spécial, c'est qu'elle envoie ses belles-filles retourner dans leur village à Moab pour marier des hommes moabites. Au verset 13, elle dit dans le fond, « Ben, je peux rien faire pour vous. Je suis trop vieille pour mettre au monde des nouveaux maris pour vous, si on pourrait envisager une telle situation. » Et la raison, elle dit, c'est que l'Éternel n'est pas bon. « Je suis bien plus affligée que vous, » elle dit, « car l'Éternel est intervenu contre moi. » L'ironie principale de cette histoire de Ruth, là, c'est que sa perception ne pouvait pas être plus loin que la vérité, car on verra que Dieu était justement à l'œuvre à travers elle et malgré elle pour réaliser son plan de bénédiction pour sa famille et pour toutes les nations de la terre à travers elle. Regardez le verset 15. Noémie a réussi à convaincre Orpah, la première belle-fille, là. Mais quand Ruth insiste de rester, qu'est-ce que Noémie dit? Elle dit, « Non, 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 retourne à ton peuple et à tes dieux. » Ça fait que dans le fond, la raison que tu ne devrais pas venir avec moi, c'est que mon Dieu m'a pas aidé pantoute. Essaie donc tes propres dieux. Pourquoi venir avec moi? Mon Dieu est contre moi. Mon Dieu n'est plus bon, il prend plus soin de moi. Suivez-vous un peu? Les Israélites étaient supposés de savoir que leur Dieu était le seul vrai Dieu, que les dieux des nations n'étaient que des idoles et que parfois derrière ces idoles travaillaient même des démons. Pour rendre les propos de Noémie plus actuels, ça serait que ton collègue au travail ou que ton colloque à l'université te dit, regarde, hey, cette étude biblique que toi avec les autres chrétiens, là, j'aimerais ça y aller à ma année. Puis là, tu réponds, ben, tu sais, dans le fond, je te conseille pas là, de t'en informer. Tu sais, mon Dieu n'est pas plus fin que ça. Puis, tu sais, essaie donc à là un autre Dieu comme ça. Ça va mieux aller. Bien, ça serait impensable là, qu'on fasse ça. Mais c'est ce que Noémie dit à Ruth. Wow, minute là. On peut s'identifier avec Noémie dans sa peine. Elle a perdu ses proches, après tout. Mais on ne peut pas imiter Noémie dans la mesure où sa douleur s'est changée en amertume, ne croyant pas que la bonne main de Dieu était à l'œuvre à travers ces circonstances difficiles. Parce que quand ton Dieu est trop petit, là, t'sais, ta douleur se change facilement en amertume parce qu'il n'est pas plus puissant que tes circonstances. Suivez-vous plus Noémie dans son amertume face à des situations décevantes? Ou encore la question du chapitre, croyez-vous que Dieu peut tourner le mal en bien pour réaliser son plan? Tout comme il va ramener la joie de cette dame Noémie à travers la connaissance d'un bébé bien spécial dans le plan de Dieu, bien, de la même manière, il veut ramener ta joie dans ta relation avec le Seigneur Jésus, même dans les circonstances difficiles, même à travers des blessures. Et plus grand que ça, il veut amener la joie à toutes les nations de la terre. Fait que, si à travers des moments difficiles, là, vous avez perdu votre joie de vivre, oui, mais la joie qui vient dans une relation vivante avec le Dieu, la Bible, bien, il veut vous ramener là, ou il veut vous amener là pour la première fois, tout dépendamment de votre cas. L'autre ironie de cet épisode, c'est la décision de Ruth. Pensez-y. Si on regarde verset 16, « Ne me pousse pas à te quitter » et dans une phrase bien connue, elle dit « Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Malgré la dissuasion de Noémie, Ruth choisit la voie la plus difficile par égard pour sa belle-mère, puis par intérêt pour son Dieu, pour des raisons qu'on ne peut pas expliquer autrement que de dire que Dieu était à l'œuvre dans son cœur à elle pour accomplir sa mission puis ramener la joie de Noémie et beaucoup d'autres gens à travers Ruth. Une fille de Moab, les ennemis d'Israël, qui aurait pensé? Humainement parlant, ça faisait aucun sens que Ruth suive sa belle-mère à ce moment-là. Divinement parlant, il y avait toutes les raisons dans le monde qu'elle suive sa belle-mère parce que Dieu était à l'œuvre à travers. On va regarder l'épisode 3 maintenant. Lisons avec moi. Verset 20, plutôt 19 au 22. Elles marchèrent toutes deux, verset 19, jusqu'à leur entrée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent à Bethléem, toute la ville fut étonnée à leur sujet. Les femmes disaient, « Est-ce là, Noémie? » Elle leur dit, « Ne m'appelez plus Noémie, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rendu la vie bien amère. Comblé, j'étais parti, vide l'Éternel me ramène. Pourquoi m'appelez-vous Noémie? L'Éternel a témoigné contre moi, le Tout-Puissant m'a fait du mal. » Ainsi revint Noémie et avec elle sa belle-fille, Ruth la Moabite, qui revenait de la campagne de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson des orges. Fait que Noémie rentre dans sa patrie avec Ruth, puis on dirait que les femmes du coin ne la reconnaissaient même plus tant qu'elle avait changé. Et ses plaintes envers Ruth, envers Dieu, en présence de Ruth, sont répétées avec les femmes de Bethléem. Elle dit, je suis partie d'ici, verset 21. Comblé, je t'ai partie. Ben, c'est pas tout à fait vrai, là. Elle est partie en temps de famine. Appelez-moi Mara, qui ça veut dire l'affligée. Appelez-moi plus Noémie, qui ça veut dire heureuse. Et les femmes disent, hey, de bonne humeur, hein? Tu sais, ça a bien été à Moab. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Là, ça ne va pas du tout selon la perception de Noémie. Mais l'auteur. C'est le fun quand tu es l'auteur parce que tu as toujours le dernier mot. Et l'auteur, à la fin de ce chapitre, il prend la peine de nous dire, regardez, fin du verset 22, « Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson des orges. » C'est-à-dire, Benjamin, moisson des orges, c'est-à-dire, hein? L'auteur nous donne un petit clin d'œil, là, pour signaler que malgré le désespoir apporté par les conditions spirituelles à l'époque, malgré la famine, malgré la désobéissance d'Élimélec, malgré les propos négatifs de Noémie, tout semble très lourd dans ce chapitre. Malgré tout ça, tout n'est pas perdu. Au contraire, Dieu a amené ces deux femmes au moment propice à Bethléem, à ce champ, pour rencontrer un homme qui va changer leur vie à jamais, Boaz. Et quelques versets plus tard, on ne va pas le lire, là, mais l'auteur, il dit, on peut traduire comme ça, ça a donné que Ruth se trouvait, hein, dans le champ de son proche parent, Boaz. Vous voyez l'auteur, c'est le concept théologique derrière tout le chapitre, puis tout le récit, c'est la providence de Dieu. La providence de Dieu, ça veut dire que tout ce qui se passe, toutes les circonstances de nos vies font partie du plan glorieux de Dieu. Et quel est le cœur de ce plan de Dieu? Bien, c'est de défaire le péché. Par la folie de la croix, le Fils de Dieu mort à ta place pour prendre tes péchés, puis pour te mettre dans une situation là où le péché ne fait plus obstacle dans ta relation avec Dieu. Or, le miracle de l'histoire de Ruth, c'est que le Dieu qui s'y présente n'œuvre pas simplement à travers les bonnes actions humaines, à travers les gens fidèles à sa parole, il va le faire avec Boaz et Ruth, mais que Dieu opère sa providence même à travers le péché. Hey, c'est quelque chose. Comment Dieu a-t-il œuvré à travers le péché dans cette histoire? Bien, il va bénir Noémie, sa maisonnée, encore malgré l'époque méchante, malgré le manque de leadership chez Élimélec, malgré l'amertume de Noémie, malgré le fait que Ruth soit une Moabite faisant partie d'un peuple idolâtre. Et partout dans la Bible, on voit que le péché ne fait pas obstacle à la réalisation du plan de Dieu et que Dieu est même capable de se servir du péché pour accomplir ce qu'il veut. On peut penser à Joseph, à la fin de la Genèse. Joseph, ses frères sont venus le voir. Leur père était mort, puis ils viennent en tremblant. Parce que là, qu'est-ce que Joseph va faire? Mais Joseph, il dit, garde, je peux voir plus loin que les blessures. Je peux voir plus loin que les injustices du moment. Vous avez formé le projet de me faire du mal. Dieu l'a transformé en bien, selon son plan. On pense aussi au premier chapitre de Jonas, où ce que la désobéissance du prophète de Dieu a amené les marins païens à la connaissance du seul vrai Dieu. À l'école primaire que j'ai fréquentée, il y avait un couple qui dirigeait l'orchestre symphonique dont je faisais partie. Et si en tant que parent, mettons, vous avez déjà assisté à ce genre d'événement-là, bien, vous savez que ça peut être quelque chose. C'est d'entendre ça. J'espère que je ne vais pas offenser personne, là, mais les sons qui sont produits sont... OK. Mais ce couple-là était bien aimé parce qu'ils étaient capables de produire un son quand même exceptionnel avec des musiciens, des jeunes musiciens très ordinaires et dont plusieurs faussaient presque continuellement. Et de la même manière, Dieu est digne de notre confiance. Parce qu'il voit le produit final dès le début. Cette vision de Jean dans l'Apocalypse, les gens en Jésus rachetés parmi toutes les nations de la terre. T'sais? Et il est capable de prendre des bons coups comme des mauvais coups pour réaliser son plan. Nous, dans les meilleures des circonstances, tout va bien avec nos plans si personne ne fait obstacle. Mais le moment où ben, ça tombe à l'eau. Mais ces obstacles-là ne frustrent pas Dieu. N'est-ce pas un Dieu qui est digne de notre foi, qui est digne de notre joie, qui est digne d'être apprécié, même quand, comme Noémie, on ne peut pas voir plus loin que le nez dans nos circonstances décevantes ou dans des circonstances difficiles, dans la douleur du moment? Dieu ne nous appelle pas à saisir comment il fait, mais simplement de nous réjouir dans le fait qu'il est capable de le faire. Ce que Noémie ne voyait pas au chapitre 1, là, nous, on est en mesure de voir. Il faut aller voir, vu que je ne vais pas prêcher les autres chapitres, allez voir avec moi les derniers versets du livre, chapitre 4 et verset 14. Ruth 4, verset 14. Les femmes dirent à Noémie, « Béni soit l'Éternel qui t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'un Rédempteur dont le nom sera célébré en Israël et te fait revenir à la vie. » Vous rappelez ce que Noémie avait dit à propos de Dieu. « Il m'a abattu. » Là, les femmes reconnaissent pour elles ce que l'Éternel a fait. « Il te fait revenir à la vie et soutient ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime, l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. Noémie prit l'enfant, le mit sur son sein, et ce fut elle qui l'éleva. L'auteur, en fin d'histoire, nous invite à fixer nos regards sur Noémie. Puis on la voit, comme dans une berceuse avec le bébé, on peut s'imaginer, là. Les larmes aux yeux, parce que Dieu a ramené sa joie. Qui aurait pensé? C'est son bébé, disent les femmes. C'est le bébé à Ruth, mais c'est son bébé. Parce que sa joie a été ramenée par Dieu. Noémie avait dit au début du chapitre 1, ben, « Dieu va-t-il me donner un nouveau mari pour que moi je puisse vous donner des enfants à marier? » Et en fin d'histoire, l'auteur dit non, ben, il ne va pas le faire comme ça. Mais il va le faire autrement, il va ramener ta joie pareil. Et cette image de Noémie nous met au défi de croire, même sans voir dans des circonstances difficiles, que Dieu est capable de changer le mal en bien pour réaliser son plan. Mettez donc tout votre espoir en lui et pas dans les circonstances. Merci de votre présence, de votre écoute. Ça fait vraiment, c'est vraiment une joie d'être ici aujourd'hui. Puis, que le Seigneur nous parle à travers sa parole parce qu'elle est puissante. Amen.